Et pour parler de ce programme dense et passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Olivier Redoulès. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Directeur des études de Rexecode. À côté de vous, Victor Lequillerier. Bonjour Victor.
Bonjour à tous.
Économiste et vice-président du think tank BSI Economics. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Journaliste BFM Business qui revient tout beau, tout bronzé de quelques jours de vacances.
Du Péloponnèse.
Ah.
Sur les mers de Thucydide, on en parlait
juste avant. On en parlait avec Xi Jinping qui rencontrait Donald Trump notamment. Comment rapprocher le net du brut? C'est le premier thème des experts ce matin. C'est l'ambition de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui s'est présenté officiellement à l'élection présidentielle. C'était vendredi, qui a fait le 20h de TF1. Grande interview dans Le Parisien et 2 heures de direct sur Brut. C'était hier soir avec un des grands piliers de son programme qui sera effectivement de renforcer les salaires. Et donc, de rapprocher le net du brut, c'est aussi l'ambition de Patrick Martin, qui lui donnait une grande interview dans le Figaro Économie ce week-end, c'était samedi. On va essayer de voir ensemble comment faire, comment réduire ce coin fiscalo-social, comme on dit Olivier Redoulès. Chez les économistes, c'est un véritable sujet de compétitivité.
C'est un sujet multiple parce que ce qu'on appelle le coin socio-fiscal ou fiscalo-social, selon les sensibilités de chacun, ça marche dans les deux sens. En fait, c'est un ensemble de prélèvements qui viennent s'intercaler entre ce que l'employeur débourse, les dépenses de personnel qui figurent dans le compte de résultat d'une entreprise,
oui,
et ce que le salarié reçoit à la fin. Et donc, à l'intérieur, il y a des choses qui sont ce qu'on appelle des cotisations contributives qui permettent d'acquérir des droits, droits à la retraite, droits au chômage, qui sont assez individualisés, qui sont une sorte soit de salaire différé, c'est le nom qui circule en général de débat, oui, public, soit on peut considérer aussi que c'est une forme d'épargne forcée. Mais ça, c'est quelque chose qui est au fond du salaire. Puis après, vous avez tout un tas d'autres prélèvements qui sont en fait des impôts. Et là-dedans, vous avez la maladie, la famille, le versement mobilité, vous avez aussi la CSG, l'impôt sur le revenu. Vous avez tout un tas de choses qui sont en fait des impôts. Et le problème de tout ça, c'est qu'en fait, ça déconnecte l'effort que vous faites pour produire quelque chose, ce que le coût employeur rémunère, au fond, de ce que vous touchez à la fin. Et le problème, c'est que en France, et c'est un sujet qui est historique, en fait, on en parlait déjà dans les années 80 ou 90, on a eu tendance, quand c'est la conception de la sécurité sociale, de se dire, au fond, on va fournir à chacun selon ses besoins. Mais bon, les besoins, ils sont infinis. Donc, de fait, en fait, on a mis d'abord en général les dépenses de la sécurité sociale, après on a cherché à financer. On est arrivé à des taux de cotisations et de prélèvements qui sont devenus assez exorbitants.
Sur les retraites, on est à 28%.
28%, mais globalement, aujourd'hui, le taux employeur, par exemple, il est de 45%, le taux normal employeur.
Bah oui.
Et par ailleurs, on veut aussi que les salariés, ils ont un niveau de vie assez élevé, un niveau de vie en fait qui se traduit notamment par des achats de beaucoup de biens importés ou autres. Et donc, au fond, au bout d'un moment, on arrive à cette situation où il a fallu mettre des rustines dans ce coin fiscalo-social,
oui,
ce qu'on appelle les allègements de cotisations.
Et oui, sur les bas salaires.
Mais aussi la prime d'activité sur le côté employé.
Oui.
Et donc, on a ce qu'on appelle une forte progressivité. Et c'est ça le vrai sujet, le vrai débat, c'est qu'au fond, on a une sorte de système un peu monstrueux où si vous prenez, par exemple, les prélèvements sur les employeurs, pour les employeurs, au SMIC, qui sont autour de 5-6%, en fait, c'est
quasiment
rien.
Charge, oui.
À 3 SMIC, en fait, ils sont à 45%. Donc, vous avez 40 points de prélèvement en plus. Donc,
évidemment, ça pèse sur les salaires.
Voilà, ça pèse sur les salaires. En fait, c'est la déconnexion qui fait que, par exemple, pour gagner 5 euros de plus en net, il faut que l'employeur paye 500 euros en plus. Mais ce 500 euros, en fait, c'est le salarié qui le produit.
Ben oui, évidemment. Grosso modo, si je résume ce que nous dit Olivier Redoulès, Victor Lequillerier, c'est on a un système social qui pèse trop sur les actifs.
Ouais, exactement, et je crois que c'est justement la proposition de Patrick Martin, c'est de se dire, on a à partir du moment où on veut réduire ce coin fiscal, ça veut dire qu'à partir du moment où on travaille pour un euro de plus que ça ne génère, ça génère davantage le salaire net. La proposition, c'est du coup plus ou moins de faire de la TVA sociale.
Ouais, on va y venir tout à l'heure. On a un peu du mal à y voir clair en réalité sur qui finance quoi maintenant. Hein. Moi, je trouve sur, enfin, vous interrogez les Français, je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu Jolivet, mais plus personne ne comprend rien à la fiche de paie. C'est-à-dire sur toutes ces lignes, et plus personne ne les regarde d'ailleurs.
Plus personne n'y comprend rien. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près sur une fiche de paye une trentaine de lignes qui sont dédiées aux cotisations sociales. Une trentaine de lignes. Il faut voir aussi d'où on part. Et je trouve ça intéressant, effectivement, la philosophie, le principe même de financement de notre modèle social, hérité de 1945, cette philosophie... Il faut pas y toucher, je pense, aujourd'hui. Mais en revanche, il faut absolument repenser tous les paramètres. Parce que...
La démographie n'était pas tout à fait la même, quoi. Hein. Oui. La pyramide des âges, il y a quand même peu de seniors et beaucoup d'actifs. Ça s'est un peu inversé.
En 1945, quand un actif arrivait à la retraite, il avait une espérance de vie qui était à ce moment-là extrêmement faible. Donc finalement, ce que les actifs... payé pour financer les retraites, c'était sur une durée de vie, une espérance de vie qui était de seulement quelques années.
Eh oui.
Donc aujourd'hui, deux générations plus tard, les paramètres ont totalement changé. Aujourd'hui, vous avez beaucoup moins d'actifs qui financent des retraités qui sont beaucoup plus nombreux, qui vivent
beaucoup plus longtemps.
Beaucoup plus longtemps, avec des dépenses de santé qui explose. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut absolument tout reparamétrer. Et cette trentaine de lignes qu'on voit sur cette fiche de paye aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour payer le même salaire net, un patron français débourse 30 à 40% de plus qu'un patron américain ou britannique.
Bah oui.
Voilà. Donc ça c'est vraiment
à la fois ça pèse sur le coût du travail, ça augmente le coût du travail et ça pèse sur le pouvoir d'achat des salariés.
Exactement. Et en fait ce défi démographique qu'on voit avec cette espèce de grande bascule en deux générations, ça explique pourquoi on a la part des cotisations des assurances sociales dans le salaire qui sont passées, vous le rappelez tout à l'heure, elles sont passées de 16 en 1945, la part de ces assurances sociales, elle était de 16% dans les salaires. Aujourd'hui, elle a bondi de 16 à 45%.
Ah oui.
Donc là, on a vraiment dans ces quelques chiffres, on a démographique et assurantiel, on voit toute la perte de compétitivité de la France par rapport à...
Olivier. Je pense qu'il faut quand même avoir quelques nuances et quand on se compare par exemple aux États-Unis, le coût du travail aux États-Unis est beaucoup plus élevé qu'en France. Il faut le savoir, ou même...
Les salaires sont beaucoup plus élevés.
Mais globalement, quand on prend tout à bord...
Mais le coût de la santé et de l'éducation est beaucoup plus élevé.
Mais il traduit aussi une productivité qui est très supérieure. Voilà. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ces prélèvements, en fait, et c'est là où la question de la lisibilité est cruciale, en fait. C'est pas juste un gadget, c'est pas juste le fait qu'on ait 20 ou 30 lignes, en fait. C'est que la lisibilité, c'est qu'est-ce qui... et du vrai salaire, qu'est-ce qui est une forme d'épargne forcée mais très faiblement rémunérée et qu'est-ce qui est de l'impôt? Quand c'est du vrai salaire, ben voilà, on travaille, c'est un choix en fait de partage pour les personnes entre leur temps libre et leur travail. Quand c'est une épargne forcée mais faiblement rémunérée, bon déjà c'est un peu moins incitatif et c'est ça quand même une partie de notre système de retraite, c'est que en fait c'est un système par répartition, mais de fait vu du salarié, ben il met une certaine somme, il reçoit quelque chose en 50 ans, mais avec un taux qui est quand même très bas, en fait, qui est plus bas que ceux
qui ne cessent de se dégrader au fur et à mesure des années. Hein.
Parce que, bon, pour partie, en fait, c'est une forme de fiscalité, parce qu'on doit supporter les retraites actuelles qui seront relativement généreuses. Et puis après, ce qui est de la taxe, par contre, là, mais là, en fait, c'est assez désincitatif. Vous dites, oui, c'est qu'est-ce que j'en retire de mon heure de travail? Vous pouvez aussi faire le choix entre faire vous-même ou payer quelqu'un d'autre à le faire. Et quand vous payez quelqu'un d'autre, ben vous devez vous acquitter de toutes ces charges sociales. Et donc, en fait, on va dans une économie un peu du do-it-yourself parce que dans tout plein de situations, on se rend compte, ben recourir aux services d'autrui, ça veut dire y mettre des taxes. Du coup, ensuite, ça justifie de nouvelles niches fiscales, d'où la niche, par exemple, sur les emplois au domicile, une niche sur les bas salaires. C'est pour rendre les services... peu qualifié dont tout le monde a besoin,
accessible,
sinon en fait personne n'y recourt et tout le monde le fait tout soi-même.
C'est une question politique quand même de comprendre aussi où va l'argent que nous concédons à la collectivité. Moi je trouve que c'est une question importante quand même, celle de la lisibilité de la fiche de paie, Victor Lecuillerier.
Sauf que c'est devenu de plus en plus compliqué, parce qu'auparavant, effectivement, on sait très bien que certaines cotisations elles sont indirectement affectées sur les aspects maladie, sur les aspects santé. Sur la TVA, c'est un petit peu moins clair. On sait ce qu'elle contribue à financer, notamment les collectivités.
Elle finance beaucoup de choses.
Elle finance aussi les dépenses de sécurité sociale. Et je pense que c'est pour ça qu'avant même de savoir comment on peut justement redistribuer du pouvoir d'achat en augmentant le salaire net, est-ce que c'est vraiment sur cette poche sur laquelle il faut s'appuyer, parce qu'on n'a pas forcément de garantie qu'en procédant par s'appuyer davantage sur la TVA, ça permette justement de répondre aux objectifs qui soient ceux de redistribuer du pouvoir d'achat.
Le MEDEF propose de transférer, Victor, 60 milliards d'euros de cotisations employeurs et maladies. C'est un peu le grand débat qui agite les économistes, et c'est notamment depuis le livre d'Antoine Fouché, qui lui veut transférer 100 milliards de charges patronales et de cotisations sociales, salariales et patronales vers d'autres assiettes. Comment on les transfère, ces 60... D'abord, est-ce que c'est normal que les cotisations famille, pour la politique familiale, repose sur le travail? C'est un peu ça le sujet de fond.
C'est un des sujets de fond, c'est l'histoire d'allocation, mais je pense que c'est aussi, c'est pour ça qu'on déplace le débat sur cet aspect-là, c'est que le modèle, en termes de sécurité sociale, plus ou moins à l'équilibre, et qu'il soit assez généreux, comme c'est le cas en France, c'est ceux des pays du Nord, notamment de la Suède. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on veut déplacer en fait le débat sur la TVA, parce que c'est ce qui a été fait dans les pays qui ont un coin fiscal qui est nettement plus faible et qui permet du coup d'avoir un niveau de salaire net plus élevé. Et moi, j'ai un petit peu plus de doutes sur le fait justement que ça soit en fait ce type de solution qui soit privilégiée au vu des enjeux en France sur la consommation privée, parce qu'effectivement, en Suède, au Danemark, en Norvège, ils ont un coin fiscal plus bas. Ça s'est répercuté par le fait qu'ils ont pu baisser certains types de cotisations patronales sur les salaires et qu'ils ont pu en fait les déplacer sur un financement via une hausse de la TVA. Oui. Ils ont un niveau de TVA qui est un peu plus élevé. En revanche, la consommation privée en pourcentage du PIB dans ces pays-là, elle est un peu plus faible. Ça veut dire que le choc fiscal que nous, ça impliquerait en France, notamment sur l'activité, il ne serait peut-être pas absorbé de la même manière. Donc, je ne sais pas si la TVA, ça soit forcément la solution...
La bonne assiette. Olivier, puis Mathieu.
Je pense, pour répondre à Victor, en fait, bon, ces pays-là, en fait, ils ont une consommation plus faible, parce qu'ils ont aussi, ils exportent plus, ils ont aussi d'autres moteurs d'activité, en fait, que leur a permis ces gains de compétitivité. Derrière le... Alors, je voudrais quand même revenir, Antoine Fouché, j'ai l'impression que sa philosophie, c'est un peu différent, en fait. C'est la suppression de la CSG, globalement, donc c'est juste ce côté salarial, et de ce que je vois dans l'article du Figaro, le MEDEF, le 60 milliards, en fait, ce 60 milliards, c'est un gros chiffre, mais c'est pas ce que les employeurs vont recevoir en net, ce qui est plutôt de 20 milliards. La réalité, c'est qu'il y a 30 milliards qui seraient rebasculés en fait sous forme de baisse d'allègement, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a des taux faciaux très élevés, 45%, on met des allègements.
Et des niches fiscales.
On a un truc très complexe. Et eux, ce que propose de faire le MEDEF, c'est de réduire un peu les deux, réduire le taux normal de cotisation et réduire les allègements dessus. Donc à la fin, et puis il y a 10 milliards qui iraient aux salariés, qui permettraient de soutenir les salaires nets. Donc l'avantage de la TVA, c'est que la TVA taxe les importations. Taxe en fait tout ce qu'on consomme, et c'est une taxe sur la consommation et pas sur le revenu.
Le seul impôt qui est inférieur à la moyenne européenne en France.
C'est vrai aussi, les impôts sur la consommation sont un peu plus faibles, mais la réalité c'est qu'en fait on a tellement d'impôts que c'est que voilà, il faut faire attention avec ce genre de raisonnement. Mais par contre, et puis le vrai sujet, c'est que les cotisations, ça taxe aussi le Made in France, d'une certaine façon. En tout cas, l'impôt sur le travail. Donc, en fait, au fond, c'est ce qu'on appelle, derrière la TVA sociale, en anglais, on appelle ça une fiscal devaluation. En fait, on est en train, ce principe, en fait, c'est de faire payer un peu plus les importations et la consommation, et un peu moins sa production et le travail. Et l'idée, c'est que ce soit bénéfice pour l'activité. C'est ça qu'il y a derrière l'idée philosophique.
Mathieu. Ouais.
Sur le plan budgétaire, c'est vrai que la TVA, c'est quand même un des leviers les plus tentants. On a quand même là une des assiettes les plus larges.
Avec
une micro-augmentation, faire des rentrées assez massives. Donc, sur le plan budgétaire, ça a toujours été hyper intéressant. Après, pourquoi est-ce
Sur le plan politique.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on y réfléchit deux fois avant d'y toucher? C'est que sur le plan politique, attention, effectivement, on est sur un point de consommation, on est sur un point qui peut toucher, même d'un point de vue infinimisal, au pouvoir d'achat. Et il faut quand même avoir en tête que les gilets jaunes, tout est parti d'une microtaxe
sur
l'énergie, et que derrière on est quand même dans un climat social ou un état d'esprit avec un sentiment général, et qui ne tient pas qu'en France, on le voit dans tous les pays occidentaux en général, un sentiment général de déclassement, et peut-être ce sentiment aussi que je n'arrive pas à vivre décemment des fruits de mon travail.
Ah oui.
Donc à partir de là,
c'est bien s'il faut adresser.
Oui. Ouais, bah voilà. Donc on réfléchit à deux fois avant d'y toucher.
Olivier.
Donc, peut-être et là on voit sans doute l'angle mort de cette proposition du MEDEF, mais qui se focalisait sur le financement à dépenses constantes. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question de où vont tous ces prélèvements, qu'est-ce qu'ils financent? Ils financent essentiellement les personnes âgées, les seniors, via les retraites et via la maladie. Et ça pose la question de comment baisser cette dépense-là. Alors politiquement,
ou les mettre à contribution. Patrick Martin propose dans son interview de mettre à contribution les retraités, les plus.
Il faut sans doute faire aussi quelque chose sur la dépense.
L'Allemagne avait utilisé ce levier. Ils avaient augmenté, je crois, en 2007, ils avaient augmenté de 3 points la TVA. Un des 3 points d'augmentation devait servir justement à baisser les cotisations patronales. Et derrière, il y avait eu, on avait eu notamment des effets sur l'emploi. Pour le coup, non, là, c'est quand même un peu biais, des effets sur l'emploi qui étaient quand même principalement dus aux lois Hertz qu'à cette augmentation de TVA, mais ça reste quand même un benchmark intéressant.
Victor?
Ouais, c'est un point intéressant qui a été soulevé. Moi, je suis assez dubitatif et assez sceptique sur le fait qu'on arrive vraiment à actionner le caractère fiscal, en fait, pour vraiment générer. On sait que c'est le fond du problème, mais on voit bien, en fait, l'état de la France.
Ça reste de la tuyauterie, globalement. Oui, c'est sûr qu'on débranche d'un côté pour rebrancher de l'autre.
Et que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce que mentionnait Olivier, il y a un gros problème, c'est notamment sur le financement des retraites. Et en fait, on revient toujours un petit peu au même problème, c'est que dans l'état actuel, en fait, de notre fiscalité et du coup de notre trajectoire de déficit public, c'est difficile, en fait, de savoir vraiment sur quel pied, sur quoi s'appuyer pour vraiment, en fait, redistribuer du pouvoir d'achat via des dispositifs fiscaux.
Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre nulle part, là.
Pour l'instant, on n'en a pas. L'objectif, c'est de s'en dégager. Effectivement, c'est la proposition du MEDEF. Mais j'ai l'impression que là, c'est un peu prématuré, au moins à court terme, jusqu'aux façons des élections présidentielles. Et qu'au-delà de ça, effectivement, est-ce que c'est vraiment la TVA? Moi, je reste assez sceptique parce que, justement, c'était ce que vous mentionniez tous les deux. C'est que ça marche plutôt bien dans des pays qui sont déjà assez compétitifs en termes de compétitivité prix. Nous, c'est pas forcément le cas. Donc, on va peut-être réussir à générer des gains en termes de compétitivité prix pour les entreprises qui exportent déjà, mais au détriment peut-être d'une consommation un petit peu plus faible. Sauf que nous, notre première contribution.
Qui est déjà pas très en forme, la consommation.
La consommation est déjà.
Alors qu'on dit que c'est le premier moteur, normalement, de la croissance française.
Ouais, exactement.
Non, mais il faut sans doute activer les deux leviers, là. Une réforme structurelle du financement pour améliorer sa lisibilité, améliorer les incitations, c'est positif sur la productivité à moyen terme, pour faire ça, mais ça ne va pas avoir des effets immédiats. Par contre, si on veut résoudre le problème des finances publiques, il faut sans doute agir assez fortement sur la dépense. Mais même là aussi, si on veut vraiment réduire le coin social ou fiscal et le réduire en niveau et pas juste en structure, il faut aussi, à un moment donné, redonner un peu plus ou moins prendre aux actifs, peut-être donner un peu moins aux retraités.
Il y a un point technique de l'interview de Patrick Martin, mais que je voulais qu'on clarifie ensemble, c'est ce transfert de 10 milliards d'euros des cotisations vieillesse salariales, vers les cotisations patronales. C'est juste un jeu de ponto, ça, en réalité, parce que...
Ça permet d'augmenter le salaire.
Que ce soit cotisation patronale ou salariale, en réalité, c'est parfaitement illusoire, non ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la distinction entre les deux est finalement superficielle ? Il y a ce que paye le super brut, que paye l'employeur, et puis au final, il y a ce que touche le salarié. Entre la deux, qu'on l'appelle patronale ou salariale, qu'est-ce que ça change ?
J'imagine que l'idée, c'est d'augmenter le salaire net, parce qu'on ne va pas changer des salaires bruts qui sont inscrits dans les contrats de travail, et donc ça permet de donner, de donner un peu d'air aux salariés.
Donc on augmente le super brut, c'est ça, de 10 milliards pour l'ensemble ?
Oui, mais il baisse par ailleurs, parce qu'il y a à la fin, les employeurs gagnent 20 milliards. Qui sont d'ailleurs, in fine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les baisses de cotisations sur les employeurs, la dynamique spontanée, c'est que c'est assez largement restitué aux salariés, soit sous forme de création d'emploi,
oui,
soit sous forme de salaire. Donc,
de revenus. et un gain net de 2 euros par heure travaillée. C'est beaucoup, ça ou pas? On peut se dire si on travaille 1600 ans et quelques heures par an.
Sur moi, c'est 300 euros pour un temps plein.
Ouais. Pour les bas salaires, c'est assez significatif. Mais pour rebondir aussi sur tous ces éléments, Victor Le Guillory. Je pense que l'OCDE, ils essayent justement de documenter les différentes mesures qui ont pu marcher dans d'autres pays ou qui prêtent étudier pour redistribuer du pouvoir d'achat. Donc après, il y a vraiment deux sujets. Est-ce qu'on redistribue du pouvoir d'achat directement ou ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter le salaire net? Et il n'y a pas forcément en fait les mêmes types de politiques qui sont mises en place et qui sont efficaces.
En fait, le distinguo, augmenter le salaire net et augmenter le pouvoir d'achat, c'est un peu...
Moi, je pense qu'il faut le faire parce que moi, je suis assez sceptique sur le fait qu'on arrivera à le faire d'un point de vue fiscal.
Ouais.
En tout cas, dans l'état actuel.
C'est pas les dépenses.
Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être étudier d'autres pistes et c'est notamment ce qui s'est passé en Allemagne sur intéresser en fait les salariés, enfin c'est toutes les politiques d'intéressement et du coup d'intégration des salariés aux performances de la société, enfin de leur compagnie,
de l'entreprise,
et que ça fait partie
donc l'actionnariat salarié
en partie, oui, et c'est ça vient aussi du coup étendre la réflexion sur tout ce qui peut être fait aussi. On a une approche uniquement par le revenu, c'est normal parce qu'on parle de revenu, de salaire net, et je pense qu'il y a aussi toute une réflexion et qui permet de rebondir sur un point qui a été évoqué, c'est tout ce qui est en lien avec le patrimoine, tout ce que le revenu qu'on peut générer en termes de patrimoine, et donc là ça revient aussi un peu avec le sujet de retraite, mais c'est que globalement les ménages les moins aisés, ils n'ont pas accès non plus à des niveaux de, enfin des, une épargne rémunératrice.
Bah oui.
Et ça, c'est quand même un gros problème en France. Sachant qu'en plus, les dispositifs, l'assurance vie, ils existent déjà, c'est liquide. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'éducation financière parce que on peut générer des effets de richesse via son patrimoine et qu'à ce stade, on n'a pas réussi vraiment à concilier ça sur l'ensemble des types de salaires. Et je pense que ça, c'est une vraie réflexion à avoir quand on réfléchit en termes de pouvoir d'achat et pas juste en termes de salaire net. C'est qu'il y a toute cette partie patrimoine, je pense, qui est un peu plus absente du débat.
Que tout le monde accède à la rente du capital. Olivier Redoulès, vous vouliez réagir?
Oui, je voudrais juste quand même rajouter un petit point pour ne pas l'oublier dans ce débat, c'est que au fond, le vrai sujet de ces prochains mois, ça va être quand même l'équilibre des comptes publics de manière générale.
Oui.
Que là, on est en train effectivement de penser à perfectionner le système à moyen terme, ce qui est bien et ce qui est sans doute générateur de gains de croissance à moyen terme, mais l'éléphant au milieu de la pièce, c'est quand même on a 5-7% de déficit public, la Commission prévoit.
C'est ce qu'a dit la Commission européenne, oui. Toutes choses égales par ailleurs. Hein. Si on ne fait rien, on dérape à 5-7.
Des dépenses d'intérêt qui gonflent. Et ça, c'est vraiment le. On dépassera, si on croit toujours les prévisions de la Commission européenne, les 120 points de PIB de dette publique l'an dernier. Et donc, en fait, on risque de rattraper par la contrainte budgétaire qui risque de devenir une contrainte extérieure beaucoup plus tôt qu'on le pense, et ça risque en tout cas de mettre en suspens ce type de discussion.
D'ailleurs, le chef économiste du FMI, Olivier Gourinchas, était sur notre antenne il y a deux semaines et alerté exactement sur ce sujet en expliquant que il voit bien que le sablier est retourné chez nous jusqu'à la
présidentielle, évidemment.
Jusqu'à la présidentielle. Et gare aux mesures coûteuses. Et lui, il a vraiment fait une alerte sur notre antenne en disant que, quelles que soient les mesures et les programmes économiques des différents candidats, il y a urgence à rester dans un cadre des trajectoires publiques, à ne pas dévier des trajectoires publiques, sachant qu'on est déjà dans une zone critique.
Oui.
Et que la conjoncture actuelle, c'est pas le sujet.
Mais d'autant plus,
jour,
oui.
Etc. Mais avec le prix du pétrole et la guerre en Iran, rend les capacités de projection quasi nulles. Tous ceux qui sont en train d'élaborer les budgets un peu partout dans le monde naviguent, pour reprendre une expression marine, dans la purée de pois. On a une visibilité qui est complètement nul. Donc il y a urgence à rester dans un cadre budgétaire assez discipliné.
C'est pas un message qu'on entend beaucoup dans la campagne, hein, pour l'instant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais vous me direz, rétablir des comptes publics, c'est pas sûr.
Édouard Philippe assumera ce costume.
Oui, c'est vrai.
Je pense que ça va permettre de faire aussi peut-être la transition sur le sujet qu'on aura après, sur la location unique. Je pense que tous ces sujets-là, ils sont très difficiles à aborder dans une campagne, dans un pays qui est quand même une croissance un petit peu morose et qu'on On a bien vu que la situation des finances publiques, ça date pas d'hier, est fragile. Et donc, ça va être difficile, en fait, de trouver des arguments convaincants. C'est pour ça que le pouvoir d'achat va être un enjeu. Mais à chaque fois, on voit qu'on retombe sur des considérations de fiscalité. Et que ce qu'on voit, c'est effectivement, c'est que c'est structurel et que, du coup, les réformes, elles sont d'ampleur. Et que, moi, j'ai du mal à voir comment on arrivera vraiment à faire un débat de qualité sur le sujet. Et que la confrontation fiscale, oui, elle aura lieu nécessairement. Et que, on l'a vu, on a du mal à faire dépasser des réformes beaucoup plus simples.
Oui, et puis en temps de croissance, quoi. C'est un peu ça le problème aussi, c'est-à-dire qu'on répare pas le toit quand il fait beau, donc par temps de pluie, ça va être un peu plus compliqué, hein. C'est ça, Olivier Andolès ?
Oui, alors le vrai sujet, effectivement, quand on est sous contrainte budgétaire, et quand on dit qu'on a 1% de croissance, voire un peu moins cette année, ça veut dire qu'on génère 30 milliards de plus pour tout le pays, mais qu'il faut distribuer...
En production de richesses nouvelles, oui.
Une population qui croît, il y a des intérêts qui augmentent, des dépenses qui viennent en plus, notamment liées à la transition énergétique avant, maintenant la défense. Et donc, en fait, il reste peu de grain à moudre. Et donc, une réforme, ça veut dire qu'il va y avoir des perdants. Et donc, c'est très compliqué. Je pense que c'est ça la raison pour laquelle l'ASU et l'allocation de solidarité unique pourraient être suspendues si c'est le cas. C'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que, certes, les gagnants, en fait, on les entend pas beaucoup, mais ils se plaignent pas. Mais les perdants, on les entend beaucoup. Et ça risque de venir très vite. Bon. Parce qu'en fait, comme on est allé au taquet en termes de dépenses sociales, c'est difficile de changer quelque chose sans faire des perdants qui sont forcément beaucoup.